Bonjour. Savez-vous qu'on ne peut pas planter un pépin de raisin et espérer voir pousser une vigne ? Plus exactement, si vous plantez un pépin de grenache, rien ne vous garantit que vous obtiendrez un pied de grenache. On dit que le pépin est génétiquement instable. C'est une des nombreuses choses que j'ai apprises dans « Le jour où il n'y aura plus de vin », le livre écrit par le pépiniériste viticole Lilian Berillon et la journaliste Laure Gasparotto. Très instructif, il permet de mieux comprendre le travail du pépiniériste pour fournir le fameux matériel végétal dont nous parlent si souvent les vignerons et les vignerons. Mais au-delà des différentes techniques de greffe, le livre décrit aussi les pratiques d'une véritable industrie du plant de vigne qui semble le plus souvent se soucier moins de la longévité des vignes à venir que du nombre de plants vendus chaque année aux exploitations agricoles. En clair, si la durée de vie moyenne d'un pied de vigne a chuté en Europe, la qualité du plant à l'origine y serait pour quelque chose. Le livre parle, enfin, du parcours d'un homme qui commence par être complice d'un système que son âme de paysan réprouve, avant de s'en écarter pour proposer aux vignerons une alternative en accord avec ses principes et sa vision du vin. Autant dire, sa vision du monde. Ce 90e épisode s'intitule « Lilian Berillon, pépiniériste engagé, bienvenue dans la terre à boire ». Et donc, nous voilà dans le studio Module, comme à notre habitude, pour un nouvel épisode de La Terre à boire. À mes côtés, Patrice Defay, bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Delceau, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien, les amis ?
Le beau temps est de retour, donc ça va très très bien.
C'est ça. Les risques de gel sont passés pour nos amis vignerons. Et le beau temps est effectivement de retour à Paris. En plus, sans dévoiler de secret, on a déjà ouvert la bouteille et ça sent pas mal. C'est même plutôt bon à boire. On a un sujet aujourd'hui auquel on pense depuis longtemps. Qui va concerner, qui va se reprocher un peu de ces épisodes qu'on a fait un peu techniques. Limite scientifique sur les différents métiers de la vigne. Notre invité n'est pas un vigneron, c'est un pépiniériste. Bonjour Lilian Berillon.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien, super.
On parle avec toi, tu es donc à Jonquière, dans le Gard. Ouais. Superbe région.
Dans le Vaucluse.
Ça s'entend un tout petit peu en fait.
Ça s'entend un peu, ça s'entend un peu chez Lilian l'accent. Dans le Vaucluse, effectivement, de l'autre côté du Rhône. Et on va donc parler de ton métier. Tu es pépiniériste viticole dans les entreprises. Lilian Berillon, voilà, qui porte ton nom. On va voir que c'est une histoire familiale, mais qui a évolué avec le temps. Parce que en réalité, le métier de pépiniériste viticole, c'est pas un métier qui a toujours existé, Patrice.
Je parle sous la
bien bah sûr oui, c'est
la,
ça.
La vigilance et le comment dire la supervision de Lilian, mais globalement c'est né enfin la version industrielle de la pépiniériste. Avant, chaque vigneron était son propre pépiniériste et plantait ses sarments dans son domaine, mais c'est le phylloxéra qui a fait basculer le métier dans une version beaucoup plus industrielle et professionnelle, puisqu'il a fallu l'action du phylloxéra des années 1890-1900, qui a détruit à 90% le vignoble français, pouvoir avoir une version un peu plus industrielle de la production de plants pour replanter toutes ces grandes surfaces. Donc le métier de pépiniériste est né au début du siècle précédent et avait eu différentes étapes avec le greffage sur table, ensuite ce qu'on a appelé le greffage automatique Oméga dans les années 70, et tout ça a fait évoluer le métier de pépiniériste à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire 1970-1980.
C'est aussi l'histoire de ta famille, Lilian. Alors, je précise tout de suite, tu racontes ça dans un livre qui s'appelle « Le jour où il n'y aura plus de vin », donc qui est tout un programme. Cette partie-là, prédictive et un peu alarmiste, on y reviendra. Mais tu commences le livre en racontant l'histoire donc de cette entreprise. Tes deux grands-pères étaient pépiniéristes, c'est ça ?
Oui, complètement. Mes deux grands-pères étaient pépiniéristes. Je dirais que par rapport à ce que tu as dit précédemment, l'industrialisation, le côté un peu intensif est arrivé, moi je dirais plutôt dans les années 1970. Après le phylloxéra, on exerçait vraiment, c'est un terme que j'aime bien utiliser, la paysannerie. Ça veut dire que il y avait vraiment du bon sens agricole et on prenait le temps. Donc on a reconstruit le vignoble, je dirais, avec du bon sens. Et là où on a décroché, pour moi, c'est dans les années 70, où là, vraiment, on a eu des pratiques très intensives de chimie, de mécanisation à outrance, etc. Et mes deux grands-pères, qui exerçaient, pas très loin de Jonquière, là où j'habite, voilà, je dirais, faisaient partie de ces paysans qui prenaient le temps, qui écoutaient, qui n'étaient pas pressés et qui faisaient un végétal de belle facture.
Et ils ont pris eux aussi, parce que tu parles des années 70 comme la période un petit peu des excès, c'est ce qu'on connaît dans la vigne, c'est ce qui s'est passé dans la vigne du côté des vignerons aussi. Oui. C'est là qu'on a commencé à user et abuser de la chimie. Et donc l'histoire de cette pépinière familiale, ton père donc regroupe en fait les deux affaires de son père et de son beau-père, si j'ai bien suivi, et lui aussi. Entre dans ce jeu de l'économie et de l'industrialisation, et toi tu en es le commercial, c'est le début.
Ouais, c'est ça. Alors mon père a eu la chance d'avoir son père et son beau-père comme pépiniéristes. Il a hérité de la force de l'un et la finesse de l'autre pour être un pépiniériste averti. Mon père était quelqu'un de et toujours quelqu'un de très exigeant et qui exerçait fort bien son métier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé. Donc lui, il a démarré dans les années 60-65, et puis les années 70 sont arrivées. Et là, il ne vendait pas ses plants à la propriété. Il vendait à des maisons. C'était comme ça. La filière était composée de producteurs d'un côté et de grandes maisons qui distribuaient de l'autre. Et lui, donc, produisait des plants de grande qualité à des maisons qui voulaient des rendements, qui voulaient des prix bas, etc. Donc, il a dû, je ne vais pas se travestir, mais il a dû quand même changer un petit peu ses techniques de production pour les rendre moins coûteuses et pour pouvoir continuer à exercer ce métier. Et ça, il a fait ça jusque dans les années 80-90. Et en 90, il crée un groupement de producteurs avec quatre copains, donc ils sont cinq collègues du village, pour vendre leur production à la propriété, directement chez les vignerons. Et moi, je m'installe donc avant les années 2000, et il me propose en effet d'être commercial, de vendre des plants de vignes.
Ça, c'est un peu la coopérative de la pépinière, c'est un peu logique.
Ouais, c'est une petite coopérative, une petite. Voilà. Mais en fait, mon parcours, il est assez rigolo parce que j'adore le vin, ma passion, c'est le vin et les vignes, et je voulais être vigneron, je voulais pas être pépiniériste, j'avais pas forcément envie de d'exercer ce métier. Bon. Pour X raisons, j'ai commencé donc avec un téléphone portable, une voiture, à vendre des plants de vignes, mais pas les produire. J'ai découvert ce métier assez tard, en fait, assez tard.
Et aller vendre avec des méthodes, les excès des méthodes de l'époque. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très frappant dans le livre qui est un peu un déclic, parce que tu commences par ça, qui est d'avoir vendu, d'avoir promis à des vignerons qui sont prêts à planter des plants dont tu sais à l'avance qu'ils ne pourront pas les avoir, et le jour où il faut leur annoncer qu'en fait, ils sont prêts à planter, mais que les plants, ils ne les auront pas. Et là, tu utilises cette anecdote, c'est un peu plus qu'une anecdote, cet événement, pour d'abord raconter le mal-être dans lequel ça te plonge, et puis aussi les méthodes, c'est-à-dire que c'était la méthode de la pépinière, c'est-à-dire on vend, et puis ensuite on fait du trading entre pépiniéristes, le marché de Carpentras, où tous les pépiniéristes s'échangent des plants, j'en ai vendu tant, et toi, donne-moi ça, je te donne ça, et en fait, on oublie complètement l'intérêt du vigneron qui est au bout de la chaîne et qui, lui, ne fait que suivre. Bien.
Oui, c'est ça, exactement. Et ça finit par une remarque. Un matin, je me regarde et je dis plus jamais ça, quoi. Je veux plus exercer ce métier comme ça, parce que je suis avant tout un passionné et en effet, à cette époque et encore aujourd'hui, c'est une technique. C'est-à-dire qu'on vend des plants on appelle ça à découvert, c'est-à-dire que les pépiniéristes vendent des plants. En effet, des fois, il leur en manque, alors ils vont le trouver sur le marché. Alors, le marché de Carpentras, c'était un marché où on se tapait dans la main, hein. C'était, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, ben, avec Internet, etc., les gens se déplacent plus, mais échangent leur disponibilité. Donc, on refuse pas de vendre des plants de vigne, même si on les a pas. Mmh. Et on va les échanger sur le marché.
Ça fait penser aux pratiques de la finance, en fait, hein. La vente à découvert, c'est carrément des termes financiers, ça.
Ouais, exactement. Exactement. Et cette année-là, la dernière année que j'ai exercé ce métier de cette façon-là, je savais qu'il y avait un manque de plants sur le marché. J'avais alerté des associés et qui m'ont dit non, il faut, on va les trouver. Et c'est vrai qu'à la veille de la livraison de certains vignerons, il a fallu les appeler pour leur dire qu'on n'avait pas la marchandise. Et c'était pour un jeune qui s'installait, c'était extrêmement traumatisant. Et vraiment, ça m'a marqué profondément. J'ai 50 ans et j'y pense encore. Hein. C'est quelque chose qui est dans mon esprit, qui est encore très frais et que je ne reproduirai plus jamais. Hein, parce que voilà, mon activité a évolué et je tiens compte de tous ces dérapages, de tous ces excès. Je laisse les autres le pratiquer et nous, on est partis sur une voie différente.
Alors, on va revenir justement sur l'activité aujourd'hui de la pépinière que tu diriges. Peut-être qu'on fait un petit détour quand même pour expliquer de quoi on parle. Comment ça marche. On a dit, ce métier, il commence avec le phylloxéra. Pourquoi ? Parce que le phylloxéra attaque, c'est un insecte qui attaque les pieds de vigne par la racine. Il a mis du temps à se déployer, mais il s'est déployé dans tous les vignobles européens. Donc encore aujourd'hui, le phylloxéra est présent dans tous les sols, à part les sols sableux, quelques sols volcaniques ou sableux. Oui. Et donc, on a la nécessité d'avoir un porte-greffe qui vient, donc qui est ce qu'on appelle un porte-greffe américain, parce que ce sont des pieds américains qui sont plus résistants.
Eh oui. En fait, le terreau du phylloxéra, c'est l'argile. Dans des sols sans argile, donc en effet, vous allez au pied de l'Etna, vous allez au pied des volcans ou dans les sables, bien il n'y a pas d'argile. Donc le phylloxéra ne peut pas se développer parce qu'il n'a pas de c'est pas son terreau. Dès qu'il y a 3 ou 4% d'argile, on peut avoir du phylloxéra. Et généralement, dans les sols, on a des argiles. Donc du phylloxéra, il y en a de partout. Hein, c'est-à-dire que si on reprend le geste d'avant, c'est-à-dire qu'on plante de la vigne sans porte-greffe, et bien très vite la vigne peut dépérir parce que le phylloxéra est toujours là.
Question, est-ce qu'on a vraiment essayé
de reprendre des fronts de pied aujourd'hui?
Oui, de reprendre un front de pied.
Alors on appelle ça un effet. Alors quand on livre un plant avec un porte-greffe américain, on parle d'un greffé soudé. D'accord. Sinon, on parle de franc de pied, c'est-à-dire qu'on prend une baguette de greffon qu'on met dans le sol et ça fait des racines et puis après ça pousse. Mais donc il n'y a pas le filtre du porte-greffe. Oui, bien sûr, ça se fait. Nous, on en fait chaque année parce qu'il y a quelques vignerons qui ont des sols sableux, donc il n'y a pas de phylloxéra et donc là, ça fonctionne très bien.
Les francs après, de pied dans l'argile, ils prennent le phylloxéra systématiquement, encore aujourd'hui.
Alors le franc de pied dans l'argile prend le phylloxéra, oui, très vite. Alors d'accord. Après, c'est toujours pareil. On est dans une société où on essaie de se démarquer, etc. Mais moi, je considère que je suis un expert du végétal et je peux vous dire avec l'expérience, parce que 50 ans, c'est 5-6 000 chantiers derrière moi. C'est pas 5 ou 6 000, c'est 6 000 chantiers derrière moi. Et je peux vous dire qu'on en a fait quelques-uns de chantiers de francs de pied dans des sols argileux et ça tient pas. Alors, ça va tenir quelques années. Voilà. Après, des fois, les vignerons ont envie de le faire. Vous prenez vos responsabilités, mais faites-le sur quelques centaines de pieds pour vous faire plaisir, mais ça tiendra pas longtemps.
Il est peut-être bon de rappeler pourquoi on utilise ces vignes américaines comme porte-greffe, parce que justement le phylloxéra venait de l'Amérique du Nord. Et, et on s'est rendu compte que là-bas, les vignes n'étaient pas du tout impactées par l'existence de ce phylloxéra. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ces porte-greffes, donc mettre un système racinaire
qui sont
américain,
un peu immunisés,
qui
était
effectivement protégé contre...
Génétiquement, ils avaient évolué pour se protéger de l'insecte.
Oui,
de l'insecte.
Exactement. Ouais. Et donc, on protège et par-dessus, on pose un greffon, donc, de nos bonnes vieilles vignes européennes, Vitis vinifera, qui continue à produire tout en ayant un système racinaire américain. Je pense que ça, c'est important de le visualiser.
Ouais, c'est très important. Alors après, je veux pas rentrer trop dans la technique, mais c'est très important parce que depuis, on a un nombre de porte-greffes qui a évolué et avec des vigueurs différentes, vous voyez, des choses comme ça. Ce qui fait que ce porte-greffe qui est le filtre, qui est le lien entre le cépage, le Vitis vinifera et le terroir et le sol, eh bien, ce porte-greffe a une incidence énorme, très importante. Hein, parce que si vous avez des porte-greffes très vigoureux, bien, vous aurez un message qui va être différent. Hein, le message qui va être donné au cépage va être différent d'un porte-greffe plus qualitatif, plus fin, etc.
Qu'est-ce que tu appelles plus vigoureux? Ça veut dire plus un cep qui est plus costaud, qui va plus loin en termes de racines. Et du coup, tu adaptes le porte-greffe par rapport. On adapte le porte-greffe par rapport au sol, par rapport au terroir auquel on.
Voilà, c'est une très bonne question, en effet, parce que ça me permet de vous expliquer que dans la panoplie, dans l'offre des porte-greffes, on a à peu près une trentaine de variétés différentes. Vous avez des porte-greffes qui vont résister au calcaire, d'autres qui vont pas résister au calcaire. Vous allez avoir des porte-greffes qui vont être très vigoureux. Et donc, ces porte-greffes-là, il faudra les mettre dans des sols pauvres. Hein, voilà, vous avez donc des porte-greffes avec des maturités qui sont différentes. C'est-à-dire que vous avez des porte-greffes plus précoces et plus tardifs. Et donc, à nous, professionnels, de proposer aux vignerons, en fonction de la nature des sols qu'il a, en fonction du type de vin qu'il veut produire, nous allons proposer le porte-greffe le mieux adapté à son terroir.
Donc, si je suis, il y a un choix de porte-greffe en fonction de la terre dans laquelle on le plante. Et du coup, il y a forcément aussi un couple porte-greffe-cépage qui a du sens ou qui en a moins.
Exactement. On peut faire les mauvais choix. Exactement. Et je suis toujours un peu critique dans les préconisations de certains parce que c'est un métier. Le végétal est un métier qui est pas connu. Hein. Les vignerons ont beaucoup investi dans des chais magnifiques, font venir des consultants, des architectes, etc., prestigieux. Mais sur le végétal, il n'y a pas une grande connaissance. Donc, on avertit souvent les vignerons, on les met en garde, faites attention dans les préconisations qui sont faites sur justement ce choix de greffon porte-greffe, cépage porte-greffe, parce que si on se trompe, eh bien on va se tromper pour plusieurs dizaines d'années. Donc, la décision est très importante. Il ne faut pas se tromper.
Pour revenir sur la bascule des années 70, en dehors de la chimie, je crois que en tout cas, ce qui impacte la filière pépiniériste, c'est la sélection clonale versus la sélection massale. Je pense qu'il faut qu'on aborde ce sujet-là aussi. Et puis aussi, ce qu'on appelle les machines automatiques, enfin greffe à l'oméga versus greffe à l'anglaise. En deux mots, sélection, c'est l'arrivée de la sélection clonale qui arrive dans les années 70, en gros, c'est ça?
Oui, c'est ça. Dans les années 70, alors un plant de vigne, c'est un cépage, donc on va appeler ça un greffon, d'accord, un cépage, et un porte-greffe. Donc on en a parlé, c'est le pied américain. Dans les années 70, pour des raisons certainement justifiées de manque de vigueur, de maladie, de manque de production, la recherche a travaillé sur la sélection clonale. Ça veut dire que les scientifiques, les chercheurs ont identifié des vieux pieds de grenache, de merlot, de chardonnay, etc. Et ils les ont clonés. Donc à la base, on part d'un vieux cep de vigne qu'on observe sur plusieurs années. C'est très long, le schéma de sélection. Et ensuite, on l'isole et on le clone. Donc d'une population d'individus qui était énorme. On avait des centaines de milliers de pieds de grenache, de chardonnay, etc., qui avaient évolué génétiquement. Eh bien, on les a clonés et on a obtenu quelques individus. de grenache, de chardonnay, de merlot, etc. Donc c'est la sélection clonale. Et en fait, on a eu, dans, à partir des années 70, un appauvrissement génétique.
Mais un appauvrissement. Sachant, voilà, ils étaient aussi sélectionnés sur des critères, on va dire, agronomiques, quoi, de volume, de.
Voilà, de voilà. Alors, types les critères. Voilà, exactement. Les choix étaient plus axés sur la production que sur la qualité, avec sur les petits rendements. Voilà. Sauf que ces clones qui datent des années 70, donc on commençait à peupler le vignoble français et européen. Et aujourd'hui, donc 50 ans après, le climat a changé. Hein, le climat a changé et on voit une, je dirais, les limites du clonage, c'est-à-dire que ce manque de diversité fait que on a fragilisé, rendu fragile les vignobles. Et en fait, avant, on peuplait les vignobles avec des centaines d'individus différents. C'est ce qu'on appelait la sélection de la masse, la sélection massale. C'est-à-dire qu'on allait sélectionner des individus de grenache dans plein de régions et on les greffait et on arrivait à livrer aux vignerons sur une parcelle d'un hectare plusieurs centaines d'individus. Aujourd'hui, c'est un individu.
On a une idée de la pratique parce que nous, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est vrai que dans cette émission, comme on a souvent des vignerons, des vigneronnes, peut-être que c'est parce que on les choisit selon nos critères à nous, mais on a souvent des vigneronnes et des vignerons qui nous parlent justement de l'attention au végétal, qui nous disent que le plus important c'est le végétal, que l'essentiel se fait dans la vigne et que l'idée c'est de bien travailler dans la vigne toute l'année pour avoir le moins de choses à faire au chai et surtout pas d'intervention, pas de correction, pas de modification. Donc ça c'est Et du coup, on a aussi des gens, c'est les mêmes vignerons en général, qui parlent de sélection massale, qui sont plutôt opposés au clonage et qui sont plutôt dans une démarche de sélection massale. Même si on n'est pas franc de pied, on fait quand même, on choisit les plus beaux de sa vigne et on dit c'est ceux-là qu'on va reproduire. On a une idée aujourd'hui du poids de ce que ça représente les clones versus le massale.
Oui, bien sûr. Je vais vous donner quelques chiffres. Ces dernières années, la production française de plants de vigne est d'à peu près 220 millions de plants produits.
Et toi, tu fais 2 millions de plants, ça veut dire que tu pèses environ 1% de part de marché. C'est pas mal, 1%.
On fait un peu plus de 2 millions de plants, avec la petite particularité, ce qui fait que notre pépinière, c'est un cas unique, c'est que 100% de notre production est issue de sélection massale. D'accord? On ne fait pas de clones chez nous. Pour revenir sur ces quelques chiffres, sur cette production de 220 millions de plants, moins de 5% est issu de sélection massale. C'est-à-dire que plus de 95% de la production, donc de ces 220 millions de plants, est faite à partir de matériel cloné.
Mais concrètement, comment ça se passe? Le vigneron qui veut faire de la sélection massale, il se tourne quand même vers un pépiniériste et il dit « Moi, je voudrais des pieds qui sont issus de sélection massale » ou « Moi, je voudrais des pieds et regarde, je t'ai apporté mes sarments de mes plus beaux pieds de vigne. » Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un cadre réglementaire qui est plutôt un peu laxiste à mon sens, mais en effet un vigneron peut arriver avec ses fagots de greffon en disant voilà, c'est mon bois de mes vieilles parcelles de grenache ou de merlot, est-ce que tu peux me faire des plants avec ce végétal? Voilà, ça c'est une possibilité. Je pense qu'il faut avoir un regard un peu plus exigeant sur le végétal et surtout sur son aspect sanitaire. Donc voilà, on a développé une activité de sélection massale, ça fait une vingtaine d'années, avec des observations sur plusieurs années, sur 3 années, avec des tests sanitaires, etc. Et on ne se contente pas d'observations visuelles. On veut vraiment amener de la diversité et que la diversité soit dans un état sanitaire exemplaire. Voilà. Donc, mais autrement, oui, ça peut se passer comme ça. Ça peut se passer comme ça.
Donc, juste pour bien cerner encore une fois, et après on va parler d'un vin, on va faire une pause pour parler d'un vin. Toi, en tant que pépiniériste, tu élèves deux choses. Tu élèves d'un côté des porte-greffes. Donc, tu les fais pousser pour qu'ils soient costauds, robustes et qu'ils vont être ceux qu'on va planter. Et de l'autre côté, des greffons. des vignes qui vont être destinées à faire des greffons. On est d'accord.
C'est ça, oui. Okay. Alors, nos vignes destinées à faire des greffons sont issues des parcelles qu'on a sélectionnées, enfin, de notre conservatoire. C'est-à-dire qu'on va identifier des pieds de plein de variétés. On a plus de 60 variétés qu'on a sélectionnées et on ne s'arrête pas d'en sélectionner.
Donc, même à Jonquière, on peut te commander du chenin, par exemple.
Ah oui, exactement. Ah oui, mais ça, c'est l'histoire de la viticulture. Ça s'est toujours passé comme ça. Okay. On peut commander un bordelais, peut nous commander des plants de Cabernet Sauvignon, etc. On a donc notre vignoble de vignemère de greffon, issu de sélection massale. Et après, on a également un vignoble de vignemère de porte-greffe. Et là, les porte-greffes, par contre, ce n'est que du matériel cloné.
Ah oui.
Sur des vignemères de porte-greffe. Ouais. Et c'est un peu, c'est un peu ce que qui me fait un peu bondir, c'est que, historiquement, mon père, qui a 78 ans, quand il faisait ses plants de vigne, lui, ne multipliait pas de matériel cloné. Il avait un vignoble de porte-greffe qui était comme une espèce de, je vais prendre un raccourci, mais massale de porte-greffe. Mmh. Et ça, ce cadre réglementaire, il a été autorisé jusque dans les années 90.
C'est plus possible aujourd'hui de faire ça ?
Non. Début 90, on a imposé l'arrachage de tout ce vignoble qui était vraiment une population d'individus. Et à partir du moment où on a arraché le vignoble de porte-greffe, on a vraiment perdu en qualité parce que on n'a jamais autant eu de problèmes de dépérissement sur le vignoble moderne depuis qu'on a arraché ces porte-greffes. C'est des sujets qui sont jamais abordés par personne parce que ça fait mal quelque part. La qualité des porte-greffes est une qualité très discutable.
Qu'est-ce qui justifie ça, en fait? Comment c'est
justifié? La recherche pour des raisons, je suis pas du tout contre la recherche ou contre nos administratifs. Il y avait certainement des problèmes sanitaires, il y avait des problèmes. Donc, on a cloné les greffons, les cépages, mais c'était la suite, c'était de cloner également les porte-greffes. Les porte-greffes, je ne suis pas persuadé que c'était nécessaire de les cloner, mais ça a été fait, ça a été cloné. Et on n'a jamais, je vous dis, je le répète, on avait, mon père, quand il livrait des plants dans les années 60, les plants poussaient, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a écrit un livre avec Laure Gasparotto qui s'appelle Le jour où il n'y aura plus de vin. C'est le jour où il n'y aura plus de vin comme on les aime aujourd'hui. Voilà. Mais il y aura toujours du vin. Mais on a trop touché à la génétique. On a industrialisé beaucoup de pratiques et aujourd'hui, le vignoble moderne est un vignoble qui n'est plus capable de vieillir. Avant, on transmettait un vignoble aux générations d'après. Un paysan qui s'installe dans sa vie, il peut renouveler la même parcelle 2-3 fois.
Oui, ce qui était impensable dans les générations précédentes.
On
a fait des clones et on l'a appliqué aux porte-greffes, mais quand même, les clones sur les greffons, on n'a jamais interdit aux vignerons de faire de la sélection massale. Alors que sur le porte-greffe, manifestement, on peut plus faire juste... On est obligé d'utiliser des clones.
100% du vignoble français et européen est issu de matériel cloné. On a cette chance de pouvoir... continuer la multiplication de matériel standard, donc des sélections massales sur le cépage, mais on ne peut plus le faire sur les porte-greffes.
Alors, pour en finir avec ce chapitre un peu technique, Laurent l'évoquait, il y a deux méthodes de greffe. Donc, il y a trois méthodes de greffe, en fait. Il y a sur table, d'abord, ce que tu appelles les greffés soudés. Donc, on a le porte-greffe, on a le greffon, donc la branche, quoi. Et soit on les soude avec la méthode Oméga, je ne saurais pas expliquer en quoi ça consiste, soit on les soude à la méthode
anglaise,
en fente anglaise.
Ouais, en fente à l'anglaise.
Ouais. Fente à l'anglaise, ça c'est sur table. Et dans les deux cas, ça peut être fait manuellement ou mécaniquement. En gros, si j'ai compris, la sélection, la méthode Oméga, elle permet mécaniquement d'aller plus vite et d'en faire plus. Fente à l'anglaise, si on le fait mécaniquement, ben on en fait plus. Et fente à l'anglaise, quand on le fait à la main, forcément, on en fait moins. Mais c'est la méthode que vous avez choisie avec ton associé. Hein, je vais la citer, qui s'appelle Katia. J'ai oublié son nom.
Girardon,
voilà.
Ah oui.
Vous optez pour une méthode de greffage. Quand vous faites sur table, vous le faites fente à l'anglaise à la main, c'est bien ça?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça.
Ah,
le greffage en fente à l'anglaise, donc je vais reprendre. Il y a deux modes de greffe, le greffage à l'oméga et en fente à l'anglaise. Le greffage à l'oméga, en effet, c'est vraiment de l'industrie. On va être, je vais vous donner quelques chiffres encore. On va se réfugier derrière les chiffres. Nous, quand on greffe en fente à l'anglaise, un greffeur fait à peu près 2000 greffes par jour. Quand c'est greffé à l'oméga, c'est les cadences peuvent monter à 12-13 000 greffes par jour. Voilà. Okay.
Ça, c'est mécanique avec une machine?
Alors, oui. Alors, quand on greffe à l'oméga, c'est une machine. On a un greffon d'un côté, un porte-greffe de l'autre. On appuie sur des boutons et puis la greffe se fait automatiquement. On peut même pas observer la qualité du greffon ou du porte-greffe, on voit rien en fait, tout est fait mécaniquement. Alors que quand on greffe en fente à l'anglaise, on a fini chez nous il y a en fin de semaine dernière, donc c'est un sujet très frais. Quand on fend à l'anglaise, c'est une machine qui date des années 50 où on fend le greffon. On fend le porte-greffe, donc on peut voir la qualité des greffons et des porte-greffes. Parce qu'il peut y avoir des nécroses, ce genre de choses. Donc quand on fend l'anglaise, on le voit. Et puis après, on emboîte manuellement le greffon dans le porte-greffe. On a un petit bruit, un petit glissement qui fait que, voilà, ça confirme que la greffe est bien faite. Voilà. Et puis après, on dépose le sujet, puis on en fait un second, et on fait, je vous dis, maximum 2000 greffes par jour. C'est un mode de production qui est beaucoup plus respectueux, qui est plus long, bien sûr, qui coûte plus cher, mais qui nous permet d'avoir une qualité de greffe bien plus intéressante qu'à l'oméga où c'est vraiment de l'industrialisation.
Et alors, il y a une autre méthode que tu détailles dans le livre qui consiste à faire ce que vous appelez des racinés.
Et alors, oui.
Là, si j'ai bien compris, vous plantez d'abord le porte-greffe chez le vigneron. Il met 2 ans, 3 ans à s'installer dans le sol et vous venez le greffer sur place.
C'est ça. Voilà. Donc ça, en fait, cette technique-là, après le phylloxéra, c'est comme ça qu'on a réimplanté le vignoble. C'est-à-dire que les vignerons plantaient un raciné, donc c'est un porte-greffe qui a fait des racines pendant 1 an, et on le met en terre et on fait pousser ce raciné pendant 2, 3, 4 ans. Et quand le diamètre est suffisant, on vient greffer le cépage sur le porte-greffe. Donc en fait, on construit la vigne différemment. Le vignoble installe ses racines, la vigne installe ses racines. Une fois que les racines sont installées, on vient greffer dessus. Il y a plusieurs techniques de greffe. La technique la plus intéressante, c'est la greffe en fente. Voilà, il y a plusieurs techniques de greffe, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est pour moi la plus belle des greffes, c'est la fente. C'est historique, elle donne, je vais être factuel, c'est la greffe qui permet de donner des vignobles centenaires. Donc que ce soit sur des racinés, donc on appelle ça sur champ, de la greffe sur champ ou sur table, les greffes les plus respectueuses et les plus qualitatives restent les greffes en fente.
C'est quel pourcentage de ta production, ça, les racinés? Parce qu'on lit dans le livre qu'il y a pas mal de vignerons qui te demandent ce type-là de greffe.
Oui.
Ça, c'est forcément celui qui coûte le plus cher.
Alors oui, ça coûte cher. Et puis, quand j'ai écrit ce livre, j'avais gardé tellement en mémoire le geste de mon grand-père qui avait ses doigts pleins d'arthrose, des doigts tout tordus, qui me parlait de ce mode de travail, de cette greffe en fente sur des racines, etc. Sauf que ça, c'était il y a 60 ans ou 80 ans. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a sur le terrain, c'est justement de garantir un travail bien fait. Il y a de moins en moins de greffeurs. C'est un travail pénible, il y a de moins en moins de greffeurs. Et puis, il y a beaucoup de vignerons qui se sont un petit peu, qui sont venus sur les racinés, mais qui n'avaient pas forcément la bonne technique pour réussir ces greffes. Donc, c'est un exercice difficile. Il faut savoir aussi que si la greffe ne marche pas, on est obligé d'arracher le sujet, le plan.
Et on peut pas regreffer.
De replanter derrière. Non, on peut pas regreffer derrière. Pas avec cette greffe qualitative qui est la greffe enfante. Donc, Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet exercice est quand même pas évident. En plus, on souffre des conditions climatiques. C'est-à-dire que c'est une greffe qui est faite en pleine terre. Donc, il faut vraiment que les conditions climatiques soient favorables, soient bonnes pour que la greffe prenne également. Et aujourd'hui, les conditions climatiques, vous les connaissez. C'est une greffe. La greffe enfante, elle se fait à peu près au mois de mars. Et ça fait quand même quelques années qu'on a des épisodes terribles, de gel tardif, etc. Donc voilà, j'adore ce process, mais c'est très compliqué et j'invite les vignerons qui veulent le faire à beaucoup de prudence et le faire vraiment petit à petit parce que sinon ils peuvent très vite déchanter. D'accord. Mais il y a quelques vignerons qui le maîtrisent et ça marche très bien.
Oui, parce que le livre est écrit en 2018. Et c'est vrai que on le lit, on sent que tu es assez enthousiaste par rapport à ça, mais on sent qu'il y a peut-être.
Et là, vous voyez, 4 ans après, je mets un peu plus de retenue, je mets en garde ceux qui veulent tenter cette aventure. C'est une aventure, mais c'est une belle aventure, mais c'est quand même pas évident. C'est pas évident. Mais c'est une technique qui permet de construire des vignobles. Qui vont durer, bien sûr.
Donc, j'imagine que les réserves que tu as sur ce procédé sont un peu les mêmes par rapport à du surgreffage.
Oui.
Parce qu'en fait.
Explique-nous le surgreffage, Laurent.
Donc, le surgreffage. Lilian, si tu veux.
Vas-y,
si tu
veux vas-y, vas-y, vas-y.
Bon, pour non, moi, non, le surgreffage est donc cette technique qui était très utilisée dans le Nouveau Monde. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins fréquent chez nous, qui est de changer finalement le cépage tout en préservant le système racinaire, donc le porte-greffe.
C'est-à-dire, j'ai un grenache, je voudrais un carignan, je surgreffe un carignan sur le grenache et l'année d'après, j'ai des carignans.
C'est une évolution par rapport aux demandes du marché. Tu as une production de rouge.
Moi, je trouve ça fou que ce soit possible
alors
techniquement.
Alors que
le
blanc, il y a plus de demandes et tu as du mal à produire. Bah voilà, d'une année sur l'autre, tu peux effectivement changer.
Et ça fonctionne,
ça permet de changer en un an, surtout.
C'est rapide. C'est très rapide. Après, avec l'équation qu'on a évoquée, qui était de dire il faut avoir le bon porte-greffe par rapport au bon sol, par rapport au bon cépage, on se rend compte que l'exercice est quand même assez périlleux. Mais j'imagine aussi que c'est ton expérience, tes plus de 20 ans de pratique du métier qui te permettent peut-être d'aider les vignerons dans ce sens-là.
Oui. Le surgreffage est une technique qui reste intéressante. Hein. On veut conserver les fondations de son vignoble, en l'occurrence son système racinaire. Et si la vigne est en bon état, il faut c'est une technique qui peut être utilisée, le surgreffage. On change le cépage pour X raisons. Il faut prendre en considération d'autres paramètres. Le choix du porte-greffe. Le porte-greffe tel qu'il était quand il a été planté, les densités, etc. quoi. L'état sanitaire de la vigne qui va être surgreffée, parce que si on surgreffe une vigne qui est dans un état sanitaire de mauvaise qualité, on règle pas le problème. Même si certaines disent que oui, on va régler tous les problèmes. Non, il faut être réaliste. Je crois qu'il faut être sérieux, quoi. C'est-à-dire, on va pas avec un surgreffage régler tous les problèmes. Mais le principal intérêt d'un surgreffage, c'est de ne pas arracher la vigne et de conserver son système racinaire. Voilà. Et c'est déjà pas mal.
Juste pour avoir une idée, des porte-greffes, il y en a combien de différents, en fait?
Une trentaine.
Une trentaine, d'accord. Okay. Donc vous jouez avec ça.
Ouais. Mais la diversité génétique, elle est médiocre, hein, puisque par porte-greffe, il y a très très peu de clones.
Ouais.
Il y a quelquefois des porte-greffes où il n'y a qu'un seul clone. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à avoir un problème de dégénérescence sur ce clone-là, parce que sinon on perd le porte-greffe. Et malheureusement, on a des exemples de porte-greffes qui ont été abandonnés. Je pense, et les vignerons qui écoutent seront bien d'accord, je pense au 161-49, qui est un porte-greffe qui est extrêmement qualitatif, qui a été beaucoup multiplié en Bourgogne, mais pas qu'en Bourgogne. C'est un porte-greffe très qualitatif qui avait cette particularité, il était assez discret comme porte-greffe. C'est-à-dire que, donc ça veut dire que le vitisinifera, le cépage, était en lien direct avec le terroir. Et ce qui s'est passé, c'est que Alors, je peux pas l'affirmer parce que j'ai pas le pouvoir de le faire. Hein, mais depuis la sélection clonale, on a jamais autant eu de problèmes de dépérissement avec ce porte-greffe-là, tellement à tel point que qu'aujourd'hui, il est plus multiplié. Il n'est plus multiplié. C'est-à-dire que un cépage, un porte-greffe extrêmement qualitatif qui a fait le bonheur de d'une très grande région viticole, ce porte-greffe-là n'est plus utilisé.
Alors,
Donc, il faut faire très attention.
Ouais. Lilian, on a une habitude dans cette émission, c'est de goûter et de boire du vin. Là, on a longtemps parlé, on n'a toujours pas ouvert de bouteille. Alors, je vais dire...
On l'a ouverte,
mais on n'en a pas parlé. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est comme si on ne l'avait pas ouverte. D'habitude, on ouvre deux vins la plupart du temps. Là, en fait, on n'aura qu'un vin. C'est toi qui l'as choisi. Alors, on l'entend, hein, toi, tu es dans le sud, on est à Paris, mais on s'est coordonné. Tu nous as... donner ton choix. Est-ce que tu as le même vin que nous, du coup?
Oui.
Tu l'as trouvé. Enfin, toi, c'est plus facile de le trouver.
En fait, je l'ai trouvé. C'est plus facile.
T'es allé à la cave et tu l'as sorti.
Oui, exact.
Le domaine s'appelle Gourde-Motins. Le vigneron s'appelle Jérôme Bressy. Et en l'occurrence, le millésime qu'on a trouvé à Paris, alors je le précise, c'était aux caves de Taïwan, c'est un millésime 2012. Alors autant dire que c'est un vin qui nous met déjà en joie, parce qu'il a un peu de bouteille, comme on dit, déjà 10 ans. Pourquoi ce vin, pourquoi ce domaine, pourquoi ce vigneron?
Pour plein de raisons. D'abord, c'est un vigneron avec qui je travaille depuis déjà pas mal d'années.
Il est à Rasteau.
Il est à Rasteau. C'est un garçon qui a une... J'ai une chance incroyable, c'est de pouvoir rencontrer des vignerons formidables, des gens connus, des gens moins connus, mais des gens formidables, passionnés. Et là, vraiment, Jérôme a un côté, c'est pour moi comme un artiste, c'est-à-dire que il est à fond, comme beaucoup d'autres vignerons, mais... Comme certains d'entre vignerons, il est à fond dans son vignoble et c'est hyper enrichissant pour un fournisseur de la viticulture et passionné de vin de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Et Jérôme fait partie de ces vignerons qui m'interpelle. Ils sont sur des très beaux terroirs d'argilo-calcaire. Jérôme aime la complantation. J'aime mélanger les cépages. Je trouve que c'est important. On revient encore sur ces problèmes de diversité. Il aime mélanger les cépages dans son vignoble, bien sûr qui est composé de vieux cèpes, de très vieux cèpes, de grenaches, les grenaches, c'est la colonne vertébrale, le grenache. Mais autour de ça, il y a plein de cépages secondaires qui donnent un côté, vous le dégustez, qui donnent des vins harmonieux, des vins costauds. Jérôme, un gars qui revendique ce cépage, donc, et qui accepte ces degrés d'alcool qui sont relativement élevés. Mais quand on le boit, on est surpris.
Il est à 14. Mais je crois qu'il a eu, ce à quoi ça me fait penser, je connaissais pas vraiment bien Gourde-Motins, mais c'est quelqu'un qui, le domaine est un peu connu. S'il est déjà au Taïwan, c'est qu'il est. Il est un petit peu connu.
À Paris, on pouvait le trouver au Taïwan, au Cave du Château, qui est aussi un endroit où on trouve des jolis vins. Ouais. Donc, j'ai oublié le troisième.
Donc il est un peu pignon sur rue, mais moi l'approche que ça m'évoque, même si je connaissais pas, ça me fait penser un peu à Trévalon, c'est-à-dire avoir une approche un peu esthétique avec une idée de départ et de la pousser jusqu'au bout. Et l'idée de départ, c'est d'abord de réimplanter quelques vieux cépages comme le Vacarès ou le Picardon ou la Counoise qui sont plus vraiment dans l'air du temps.
Et d'ailleurs, il est hors appellation. Hein.
Oui,
c'est un IGP.
Oui, il est IGP. De travailler avec des très petits rendements, je crois, il y a entre 10 et 15
hectares.
Très
faible.
Très faible. Et donc voilà, de produire un vin esthétique, entre guillemets, enfin d'avoir une approche artistique et de créer un peu un vin particulier dans son appellation. Et comme Trévalon est arrivé en IGP avec des cépages un peu Cabernet Sauvignon, etc., incongrus dans le sud. C'est un peu ce que ça m'évoque, quoi, en termes d'approche.
Oui, et Éloi Durbach était un ami à Jérôme. C'était un ami. Éloi, c'est quelqu'un qui.
Tu parles de lui dans le livre d'Éloi,
qui est parti. Il est parti il y a pas très longtemps d'ailleurs.
Il est parti, il y a peu de temps. C'est quelqu'un qui est toujours présent, et qui m'a beaucoup aidé. Et je sais qu'avec Jérôme, ils étaient ils étaient bien copains et on se voyait souvent ensemble. Voilà, donc voilà, on a des vins qui sont riches, hein, riches de diversité aussi, parce que je vais prendre l'exemple d'une plantation qu'on a fait il y a maintenant 10 ans devant la ferme. On appelle ça la parcelle de la ferme, où on a mis 18 cépages différents sur des argiles calcaires. Il est arrivé à faire pousser des porte-greffes de type Riparia Gloire. C'est un porte-greffe qui est extrêmement qualitatif, extrêmement fin, mais c'est sa viticulture, son travail de vigneron qui a fait qu'il a pu faire en sorte que ce porte-greffe s'adapte à ce terroir. Quand on lit la littérature, jamais on peut faire implanter un porte-greffe de Riparia Gloire sur ce type de sol. C'est ça qui me plaît, c'est ça le travail de vigneron. C'est d'arriver à faire pousser la vigne dans des conditions difficiles, etc. Et ce porte-greffe-là, le Riparia Gloire, donne des grands vins. Voilà. Et je trouve ça formidable. Et ça se traduit après, dans la bouteille, dans le verre.
C'est vrai que, enfin, le vin est très, très, enfin, c'est un super vin parce que, d'abord, il a bien vieilli et il a encore sous le pied.
Il
y a beaucoup de richesse, mais on sent qu'il y a encore une structure acide, une certaine fraîcheur, une structure tannique qui peut encore l'amener, je sais pas, allez, 5-10 ans facile, quoi.
Ah oui, facile. Ouais.
Laurent, tu.
Moi, ce qui m'a touché en le dégustant, là, c'est effectivement déjà l'attaque, un toucher de bouche en attaque qui était vraiment très d'une délicatesse incroyable. Là, je me replonge le nez dedans et j'adore ces senteurs d'herbes. Enfin, on a des herbes aromatiques, on a un sentiment d'être dans la garrigue. Là, c'est hyper plaisant, en plus du fruit. J'aime beaucoup, voilà, mais...
Non, c'est un joli vin, c'est vraiment un très beau. Bon, c'est pas donné, hein, le 2012, je vais le dire tout de suite quand même, c'est un IGP, mais ça n'a pas de rapport d'ailleurs, mais Taïwan, 66 euros la bouteille, 2012. Ouais. Alors je pense que les millésimes plus récents sont quand même moins chers au domaine, j'imagine. Je sais pas si on en trouve facilement, mais
oui, c'est une petite rareté, production.
Rareté, voilà. C'est une petite production, voilà.
Ah ouais. Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est un très bon choix. Il était très belle découverte sudiste. L'autre grand sujet, le sujet du livre, moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'était un peu une punchline quand même du livre qui est sorti à Gasparotto. C'est-à-dire 97% du matériel végétal en France est malade. Moi, ça me faisait penser un peu à la phrase des Bourguignons qui disaient que le sol du Sahara était plus fertile que le sol de Bourgogne. Est-ce que c'est vraiment vrai ou 80, enfin, c'est une vraie étude statistique.
D'où sort ce chiffre
ou c'est plus une punchline pour éveiller les consciences, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est plus pour il faut un électrochoc. Je vous dis, je le répète, alors ça irrite, ça fait pas plaisir à certains, mais on peut investir des millions d'euros dans des chais et on fait pas trop attention au végétal parce que la vigne est généreuse, elle pousse, elle fait du raisin, voilà, ça génère des jolis chiffres d'affaires, etc. Ceci dit, le vignoble, en effet, n'est pas dans un état exceptionnel, voilà. Et je suis, je serais même encore plus alarmiste en disant que le vignoble moderne est certainement en moins bon état que le vignoble historique. C'est ça qui est un peu grave, c'est que on a parlé tout à l'heure de pratiques intensives des années 70 avec le clonage, etc. Et donc on se retrouve depuis les années 70-80 avec un vignoble qui vieillit très mal. Hein. C'est-à-dire qu'on a en fait deux types de vignobles, un vignoble historique qui a des fois 100 ans et qui se comporte bien, qui vieillit bien, qui produit et qui fait des grands vins. Et on a ces vignobles qui sont relativement jeunes, qui ont 20, 30, 40 ans, maxi, et qui dégénèrent. Vous faites des plantations de vignes et très vite, vous allez avoir de la mortalité. 2-3% par an de mortalité, ce qui fait qu'au bout de 20, 25, 30 ans maximum, bien vous arrachez votre vignoble. Et aujourd'hui, c'est réel, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment écrire un modèle de pépinière différent qui prend en considération nos techniques de production, mais aussi toute cette partie accompagnement pour expliquer aux vignerons comment préparer les sols, les repos de sol, les itinéraires techniques, etc. Parce que aujourd'hui, on veut que les vignerons avec qui on bosse continuent à faire des grands vins, pas des bons vins, des grands vins, comme celui que vous dégustez. Des vins de terroir, exactement. Et on veut que ces vignes vivent 100 ans.
Après sur les causes, enfin je sais pas, enfin si on doit résumer un petit peu, il y a pas de, je suis pas sûr qu'il y ait de règles absolues. Puis il y a, je pense qu'il y a tellement d'intérêts, tellement de lobbies que personne se mettra d'accord sur les causes. Mais globalement, on peut dire que il y a quand même la faiblesse du matériel génétique. Le clonage fait que, enfin ça on reprend. On a eu un échange avec Marc-André Sellos qui parle beaucoup de symbiose et de coévolution, en disant que voilà, quand le matériel génétique évolue pas, les parasites et les pathogènes, eux, continuent à évoluer. Et donc c'est une cible immobile. La vigne devient une cime immobile. Donc, si je dois résumer, sur les causes de cette mortalité, il y a le fait que la diversité génétique soit trop faible, globalement. Donc, les pathogènes sont plus attaquants. Que la greffe oméga, c'est par là où souvent rentre la maladie. Enfin, la greffe oméga, ça, c'est le diagnostic de Lyon Berillon. Hein, je vais pas dire que c'est le mien non plus, mais que la greffe est plus fragile. Donc, les maladies rentrent plus facilement. Les maladies du bois, en tout cas, rentrent plus facilement. Que le porte-greffe, aujourd'hui, il est unique et c'est pareil. Il n'y a pas de coévolution du porte-greffe, et lui aussi devient une cible immobile, et donc là il y a un vrai problème sur ça. Est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic des causes de mortalité?
Il y en a d'autres,
bien sûr, le changement climatique. Il y a quelques semaines, on parlait du le cycle de l'eau. Ça y est, quand le cycle de l'eau est perturbé, les sols s'évaporent beaucoup plus rapidement qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est quoi les autres, Lilian, pour toi?
Je pense qu'il y a. Moi, j'aurais fini par les conditions climatiques. C'est le coup de grâce des conditions climatiques. Mais je dirais que la qualité du système racinaire du vignoble moderne est très médiocre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi des préconisations qui ont été formulées par certains, des consultants ou d'autres, qui sont des préconisations qui aujourd'hui ne peuvent plus être conseiller des préparations superficielles, ce genre de choses. Pendant des décennies, on a expliqué aux vignerons, il faut pas travailler les sols en profondeur parce qu'il y a de la vie microbienne, il y a des micro-organismes, mais on peut travailler les sols en profondeur et respecter les structures des sols. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est très simple. Vous savez, la viticulture, l'agriculture, c'est très simple. Il faut faire en sorte qu'on construise les racines, les fondations d'une vigne. Si on veut construire une maison et la transmettre aux générations d'après, il faut d'abord installer les fondations. Après, on construit dessus. La vigne, c'est exactement pareil. Il faut préparer les sols en profondeur pour que les jeunes plants de vigne puissent s'installer et s'enraciner en profondeur. Si vous faites des préparations de sol superficielles à 20-30 cm, les racines, à un moment donné, très vite, elles vont buter sur des sols qui sont pas aérés, qui sont pas, voyez, et donc le système racinaire ne pourra pas s'installer. Et aujourd'hui, on observe sur les vignes qu'on arrache qui ont 20-30 ans un système racinaire qui est très défaillant. Moi, je pense que une des principales causes, il y en a plusieurs, hein, c'est également des mauvaises préconisations qui ont été faites ces dernières décennies, et voilà ce qui rend le vignoble extrêmement fragile. Vous mettez un végétal mal travaillé, produit de manière intensive sur un sol mal préparé, les conditions climatiques, c'est vraiment le coup de grâce. Les techniques de production, on les a rendues intensives avec ces modes de greffe, avec le clonage, etc. Je vais vous donner le prix d'un plant de vigne. Le prix d'un plant de vigne sur le marché, c'est à peu près 1,30€, 1,40€.
Ah oui.
Et oui.
On en met combien à l'hectare?
On en met à 10 000. Ça dépend des régions, mais on va dire, on va prendre 15 000, non, plus, ouais, plus maintenant. En moyenne, on est sur une base, on va dire, entre le sud où on n'en met pas beaucoup et d'autres régions où on en met un peu plus, on va dire 5-6 000 pieds à l'hectare. Voyez, okay. Et il se trouve aussi que la réglementation européenne a évolué et aujourd'hui, on prime les plantations de matériel cloné. C'est-à-dire que si vous plantez des clones, vous avez des aides européennes. Alors que si vous plantez du matériel en catégorie standard, c'est-à-dire des sélections massales, vous n'avez pas d'aide européenne. Donc, pour un vigneron qui veut bosser avec nous, double sanction. C'est-à-dire que il va payer les plants plus chers et Il n'a pas d'aide européenne.
Parce que toi, tes plans, ils sont pas à 1,30 €, ils sont à combien?
Ah non, ils sont pas à 1,30 €, mais nous, on est en phase de, d'explication, je dirais, pour, on est en train d'expliquer à la viticulture qu'il faut pas aborder le prix avant tout, si on veut planter de la vigne sur du très long terme.
Il faut penser au long terme.
Le prix. Il faut penser au long terme. Ça veut dire que, en fait, vous avez une aide européenne qui va jusqu'à 7, 8, 10 000 € à l'hectare. Ça veut dire qu'en fait, un vigneron qui plante des clones.
Ça lui coûte rien.
Ça lui coûte strictement rien. C'est-à-dire que ça n'est presque risible. C'est-à-dire que, en fait, comment est-ce qu'un vigneron peut se plaindre de voir son vignoble qui dépérit au bout de 20 ans, alors qu'il n'a pas payé, quoi. Il n'a pas payé le. Vous voyez? Non, mais on peut presque en ricaner, quoi.
À une époque où on le payait pour arracher, hein, donc finalement.
Allez.
C'est vrai.
Ouais. Le paradoxe n'est pas si énorme.
J'en profite pour. J'avais noté quelque chose que j'ai lu dans ton livre où tu écris « L'Europe donne toujours de l'argent aux vignerons pour arracher et replanter sans laisser les sols se reconstituer ». C'est un autre sujet dont on peut parler un peu. C'est totalement illogique. La virose présente dans la terre n'a pas le temps de s'en aller. Elle contamine aussitôt la nouvelle vigne plantée. Tandis que moi, je me crève à produire des plants d'une diversité et d'une qualité sanitaire exemplaire. Je prends des risques au quotidien, je m'endette, je vis comme un malade. Si on veut miser durablement, il faut du temps. Il faudrait au minimum 3 ans de repos, mais idéalement 7 ans. C'est l'unique solution pour résister au changement du climat. Et c'est aussi un des points, c'est que le changement climatique, il ne s'agit pas de le nier, il est bien là, mais tu dis qu'il a bon dos, en quelque sorte, et que si on travaillait déjà de façon plus intelligente, on serait mieux préparé.
Vous savez, il faut mettre le vignoble en mode protection. Et pour ça, je reviens toujours sur les préparations de sol. Je parle beaucoup de choses qu'on voit pas, les préparations des sols, les porte-greffes. On parle souvent des cépages en disant « moi j'ai une super sélection qui vient de tel endroit, etc. » On parle jamais des porte-greffes. Ce qui est le plus important, c'est le système racinaire d'une vigne. Et si on prépare les sols comme il faut, c'est pas simple, hein, c'est pas évident, mais il faut juste connaître un petit peu les éléments, certaines techniques. Et bien, si vous arrivez à préparer les sols comme il faut, vous allez avoir votre système racinaire qui va s'installer en profondeur et qui va mettre la vigne à l'abri. C'est très vrai. Ça se passe comme ça. Mais en effet, si vous voulez qu'on parle des repos de sol, ben oui, c'est évident. Comment un marathonien, même le plus averti, rentre de marathon, il va pas repartir le lendemain. Il a besoin de se reposer avant de refaire un marathon. Une vigne qui a reposé 60 ou 80 ans sur un sol, il y a des viroses, il y a des maladies. Il faut que le sol se régénère. Il faut le travailler, le faire un couvert végétal, etc. pour qu'il se refasse une santé. Et après, on peut réinvestir dessus durablement. Sauf qu'aujourd'hui, la réglementation ne va pas dans ce sens. Aujourd'hui, la réglementation, elle incite les vignerons à faire reposer les sols très très peu de temps. Et au plus vous plantez rapidement, au plus votre aide, votre subvention est importante.
Alors, il y a un truc qui va dans le bon sens, peut-être, dans la réglementation, c'est qu'en 2035, les vignerons bio devront utiliser des plants bio. C'est valant bon sens, c'est ou pas?
Oui, c'est bien, mais oui, bien sûr que ça va dans le bon sens à partir du moment où on fait attention à l'environnement, ça va dans le bon sens. Mais ça n'empêche pas que si les sols sont pas reposés, on réglera pas le problème. Nous, on fait des plans, on peut exploser sur le prix d'un plant. On peut, si vous voulez, on peut se rapprocher de 7-8 €, le prix du plant. Mais si derrière il est planté dans des sols qui sont encore atteints de plein de maladies, on fera jamais un travail exceptionnel.
Ouais, moi l'impression que j'avais, après c'est toujours facile de dire, alors c'est pas le bien et le mal, mais dire il y a une vision qui est comme ça, une vision qui est comme ça, donc on est toujours un petit peu binaire dans l'analyse et la vérité est souvent entre les deux, mais j'ai l'impression qu'il y avait des solutions un petit peu technocratiques par rapport à la problème de mortalité de la vigne, qui sont toujours dans la logique clonage, l'arrivée des cépages résistants,
oui, il faut qu'on en parle un peu.
Puis qu'il y avait une approche un peu plus terrienne, un peu plus agriculture paysanne, on va dire ça comme ça, avec déjà inciter les échanges entre la pépinière et le vigneron. La discussion, encourager la coopération, tout simplement, de faire 1 + 1 = 3, quoi. J'aurais tendance à dire réapprendre aux vignerons à être aussi un pépiniériste, quelque part. Et alors réintroduire aussi la notion de, c'est ce qu'on disait là, de jachère. Alors là, c'est très compliqué la jachère parce que c'est une logique d'écosystème, de vie des sols. Et je pense que la jachère est moins nécessaire quand on est en bio ou en biodynamie. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je maîtrise pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y avait et puis bien sûr changer les incitations fiscales. C'est-à-dire qu'il faudrait que les incitations fiscales payent la diversité génétique plutôt que le clonage. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une opposition de solutions un peu technocratique, on va dire ça comme ça, et puis des solutions paysannes.
Oui, après il y a, je crois que la représentation, la représentativité viticole à Paris, elle est mal faite. Aujourd'hui, on a deux viticultures. On a une viticulture de masse que je respecte, il y a pas de problème. Une viticulture intensive qui a besoin de faire du raisin, etc., et qui vendent des bouteilles, des prix, petits prix, etc. Il faut cette viticulture-là. Et puis après, vous avez une viticulture de qualité. Une viticulture qui revendique les terroirs, qui veut faire des vins de garde, exporter dans le monde entier, des grands vins et des vins de table, mais des vins de, comme celui de Jérôme Bressy. Et donc, c'est, pour moi, il y a deux réglementations différentes. Il y a deux approches qui peuvent pas être identiques. Il peut y avoir des aides pour ceux qui veulent planter des clones, mais on peut également aider ceux qui veulent planter des sélections massales ou qui vont dans cette viticulture-là. Et nous, notre réflexion, qui a maintenant quelques années, c'était de dire, on a une pépinière, on veut adapter une pépinière à une seule viticulture, en l'occurrence une viticulture de qualité, parce que j'aime cette viticulture-là, pas par snobisme, c'est parce que j'aime les grands vins, j'aime discuter avec des Jean-Louis Chave, des Jérôme Bressy et tant d'autres, et voilà. Sinon, ben, j'aurais pu avoir un modèle de pépinière plus intensif pour l'autre viticulture. Même dans notre métier à nous, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les pépiniéristes ont un modèle qui répond à tout le monde. Une pépinière peut répondre je parlais de Jean-Louis Chave, Jérôme Bressy, et également un coopérateur qui a besoin de gros rendements, etc. Et c'est ça qui est mal fait. Oui.
Alors, à propos, peut-être pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble, même si c'est passionnant, pour terminer sur ces cépages résistants, c'est quand même un des grands débats. Est-ce que c'est une bonne idée et c'est une solution technologique, certes, mais qui permettrait peut-être de réduire la chimie? Donc, on a technologie contre technologie, quelque part. Modification génétique des plants pour qu'ils soient résistants à l'oïdium, à des maladies du bois qui apparaissent aujourd'hui.
C'est principalement les maladies cryptogamiques. Hein.
Plutôt les maladies cryptogamiques. Ouais. Effectivement, justement, les maladies du bois, ils sont pas très protégés contre les maladies du bois. On protège contre les champignons. Quelle est ta position? Alors, je la connais, ta position. Elle est plutôt hostile, mais explique-nous.
Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est intéressant pour
Écoute,
l'agriculture de qualité? Est-ce que tu penses que les souches de mildiou et d'oïdium vont résister éternellement à des cèpes qui ont des gènes de résistance. Je pense que ces variétés résistantes sont intéressantes, certainement. Elles sont intéressantes pour les viticultures. Il faut surtout avertir la viticulture et ne pas laisser penser à toute la viticulture que c'est la solution miracle. C'est une possibilité que les pépiniéristes, donc je ne ferai pas partie, vont donner aux vignerons de planter de la vigne qui va résister au mildiou, à l'oïdium. Donc du coup, ils vont réduire leur dose de cuivre et de soufre. On est très loin quand même des Vitis vinifera et de l'histoire de la viticulture avec ces variétés résistantes. On parle plus de diversité, on est sur de la création variétale. Donc qualitativement, on est en dessous. On est en dessous. Moi qui veux repeupler les vignobles avec des dizaines et des centaines d'individus d'une même variété pour amener de la richesse et de la résistance. C'est ça qu'on va mener. Eh bien, je vais pas bien sûr multiplier ces variétés résistantes limitées à un individu.
Parce que c'est nécessairement équivalent à clone les variétés résistantes. On peut pas imaginer Parce que quand tu dis création variétale, la création variétale, ça,
que c'est une question de temps.
C'est une question de temps. La création variétale, ça a existé dans le temps. Toutes les variétés, oui. Elles ont été créées à un moment, pas de manière, pas de façon OGM, mais de façon, voilà, comme on crée une nouvelle rose. On peut créer des variétés autant qu'on veut, de manière artisanale. Et imaginer une sélection massale. Mais en fait, là, c'est qu'on accélère le temps, c'est ça. Et du coup, on va vers une option clonale.
Oui, mais après, je le redis, j'y suis pas opposé. Ça rentre pas dans mon marché. Je considère que si on veut continuer à faire des grands vins et vouloir construire des vignobles centenaires, c'est pas avec ce type de végétal qu'on va pouvoir l'envisager. Par contre, pour une viticulture, je dirais un peu plus intensive, etc. Oui, ça peut être une solution très 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 intéressante. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Jean-Louis Chave, que j'aime beaucoup. C'est un vigneron c'est un grand vigneron, et Jean-Louis me disait
qu'on a eu dans l'émission il y a déjà longtemps, mais qu'on a interrogé.
Ouais. Ouais, et je lui dis, Jean-Louis, est-ce que je peux l'expliquer, ce que tu veux me dire? Il me dit oui, bien sûr, et il m'expliquait qu'il arrivait à déguster à l'aveugle les clones. Vous voyez, des clones de Syrah, c'est-à-dire que vous lui mettez quatre clones différents de Syrah, il arrive à vous retrouver le numéro de clone de chacune des Syrah. Ça veut dire qu'en fait, le clone peut prendre le dessus sur le terroir. Donc en fait, on risque d'avoir la même problématique, c'est qu'on va perdre ce terroir. Moi, que ceux qui veulent faire des vins avec des 100 hectolitres hectares ou plus perdent l'effet terroir, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais on va pas, on peut pas réimplanter des cépages comme ça. C'est pas des cépages, des variétés comme ça. Parce que je pense que c'est, on va d'abord on va fragiliser le végétal, puisqu'il y aura plus de diversité. Et aujourd'hui il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on lise sur un article la biodiversité. Donc là la biodiversité elle n'existe plus, hein, avec ces variétés résistantes, vous voyez. Et mais... je pense que c'est pour la viticulture que je soutiens, celle dans laquelle je m'engouffre au quotidien, eh bien je suis convaincu que c'est pas les variétés résistantes qui vont sauver cette viticulture là.
Tu précises variétés résistantes parce que justement ces hybrides ou ces choses résistantes, c'est un mix entre du Vitis vinifera et
ouais, c'est 99% de Vitis vinifera et 1% de Rupestris, voilà. La partie
donc ça ne peut pas être un cépage. Hybrides, un cépage n'est que un métissage entre des vinifera, c'est ça, hein, la subtilité.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Exact. Ouais.
Bon,
on va pouvoir en parler avec notre ami Bertrand, qui planter.
Oui, après les cépages, ce qui résiste, moi, cryptogamique, pardon, c'est pas applicable forcément à tous les vignobles. Il faut d'abord qu'il y ait plutôt de la pluie. Donc là, c'est vrai que nous, on a un ami qui plante ça dans la Somme, qui est très au nord et
qui a peur des champignons.
Qui a peur des champignons, voilà.
Mais du coup, il y a aussi, je crois que tu l'évoques également dans le livre, c'est qu'on se protège contre quelque chose, mais on va d'abord, je crois que tu le mentionnais, l'oïdium peut aussi évoluer et finalement réussir à attaquer ces plants. Et puis, par ailleurs, s'il n'est pas attaqué par le mildiou et l'oïdium, il peut quand même être sujet aux maladies du bois qui font ravage, le black rot.
Oui, ben oui, attention, c'est pas vrai. Le black rot, oui, exactement. C'est-à-dire qu'on va utiliser du cuivre et du soufre pour essayer on va réduire ces doses de cuivre et de soufre, pardon, parce qu'il y aura moins d'attaques de mildiou et d'oïdium, mais il y aura peut-être du black rot et il va falloir, donc, du coup, utiliser ces mêmes produits parce que le black rot, il faut l'éradiquer aussi. Donc, voilà, il faut le combattre. Donc, je souhaite que ça fonctionne pour une viticulture, mais je ne souhaite surtout pas que la pas pour mon business, mais pour une viticulture que j'adore. J'espère qu'elle va pas s'engouffrer dans ces variétés résistantes. Il y a vous savez, sélectionner au cours des étés des vieux pieds des beaux gobelets, des souches centenaires, des fois plus que centenaires, c'est magnifique, c'est des œuvres d'art. Ça me parle, ouais. Vous voyez, ça me parle. C'est ça pour moi la viticulture durable et celle qui revendiquera des grands vins. Et on les voit, ces vignobles, ils sont magnifiques. Il faut les sauvegarder, il faut les sélectionner, les sauvegarder, faire des plans, voilà, des beaux plans, bien travaillés et accompagner les vignerons parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs itinéraires techniques avant, pendant, après la plantation pour commettre le moins d'erreurs possible. On reçoit beaucoup de vignerons chez nous et on leur explique que nous on va pas sauver la viticulture, c'est le vigneron et le pépiniériste qui arriveront. Mais le vigneron seul n'y arrivera pas, le pépiniériste seul n'y arrivera pas. Voilà, donc il faut repenser tout ça. Repenser peut-être même son modèle économique, sa manière de travailler, et je suis persuadé qu'on pourra continuer à faire des grands vins et enfin réinvestir dans des vignobles qui seront centenaires. Après, le prix, bon, c'est secondaire. Franchement, pour moi, c'est pas le sujet. C'est pas un sujet important. C'est pas le plus important.
Merci beaucoup, Lilian Berillon. Est-ce que vous avez encore une question camarade, on en aurait plein en fait.
On en
aurait
plein. Hein. Il y aurait pas mal de choses. On va faire une émission.
On va venir te voir à Jean-Pierre.
Mais oui, venez. Oui, ouais, il faut venir nous voir.
Alors
tu avais dit Jean-Pierre dans le Gard. Alors Jean-Pierre, non, c'est dans le Vaucluse. Mais oui. on a aussi une pépinière qui est de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon. On a deux sites de production et on est sur une petite île, l'île de la Motte, près de Villeneuve-les-Avignon. C'est magnifique.
C'est là que tu as reçu nos amis.
Génial. On a presque 90 hectares d'un seul tenant sur des sols. C'est des sols vraiment pour la pépinière. Et on a un outil de production génial. Une équipe, parce que c'est moi qui parle, mais y a derrière toute une équipe qui se bat aussi. Ouais. Hein, parce que c'est un métier éprouvant. Voilà, et tous sont des passionnés de vin, ils sont tous engagés.
Lilian, si j'avais juste une dernière question. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou est-ce qu'il y a une envie dans ce que tu fais de faire quelque chose comme le domaine de Vassal dans ta pépinière ou pas? Le domaine de Vassal étant un conservatoire
en
France, voilà, il y a quelque chose de ce registre ou pas du tout?
J'ai 50 ans, mon fils veut reprendre la pépinière et j'aimerais bien avant de quitter ce métier. Oui, j'aimerais bien pouvoir avoir des conservatoires, des beaux conservatoires des principaux cépages et des cépages secondaires un peu de partout. Oui.
C'est un travail qui est entrepris déjà. Hein. On te suit dans le livre. Tu voyages un peu partout en Europe pour aller trouver des vieux pieds de grenache. Tout ça, ce conservatoire, il est en cours de construction. Tu l'appelles ton arche de Noé.
Ouais, c'est Laure qui a eu cette idée de l'appeler comme ça, Laure Gasparotto. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est
Noé qui était assez fort en viticulture. Donc, c'est le premier vigneron. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, Noé, c'est le premier vigneron dans la Bible.
Ouais, c'est le premier vigneron. Ouais. Ouais. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, je reviens à tout ce que j'ai dit au tout début. Je voulais pas être pépiniériste. Moi, je voulais faire du vin. et voilà, donc si c'est le passage obligatoire pour faire du vin, ben je. Voilà.
C'est, ça reste encore un projet, ça ou
non? Ah oui, bien sûr. Oui,
ah oui, c'est
oui,
vrai.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, ouais, mon fils, j'explique à mon fils que pour être. Allez, je vais être un peu prétentieux. Pour être un grand pépiniériste, il faut connaître le milieu du vin. Donc, avant d'être formé avec notre pâte à nous, il se forme d'abord chez les vignerons. Donc, il travaille chez les vignerons régulièrement pendant son temps libre pour apprendre avant tout le métier de vigneron avant d'être pépiniériste.
Et à t'entendre, j'ai l'impression que pour être un grand vigneron, il faudrait aussi être un petit peu, connaître un petit peu le monde de la pépinière.
Alors, je vais reparler de Jean-Louis Chabre, je sais qu'il n'aime pas trop ça, mais Jean-Louis me dit « donne-moi la définition d'un vigneron ». Et je pense que dans la définition de vigneron, il y a en effet la nécessité absolue de connaître le milieu du végétal et le milieu de la pépinière viticole. Ouais.
Alors, je rebondis là-dessus parce que j'avais aussi noté, toujours dans le bouquin, et je crois que c'est Jean-Louis Chave à qui tu prêtes ce mot, voilà. Cette phrase de Jean-Louis Chave, très grand vigneron dans le Rhône. « Un vigneron, c'est quelqu'un qui sait tout faire, le vin, mais aussi les murs de ses vignes, la plantation de sa vigne, la sélection de son végétal, etc. »
Ben, Il y en a plein d'autres de villes de grands vignerons. Un gars comme Éric Michel, Éloi était quelqu'un de formidable. Et il y en a plein d'autres. Il y en a tellement de grands vignerons. Mais vous allez chez Jean-Louis Chave, ben oui, quand vous arrivez chez lui, vous avez toutes les terrasses, tous les murs qui ont été faits en interne, hein, pas par des entreprises externes. Jean-Louis veut avoir la main sur le métier, sur tous les métiers liés à la viticulture.
Et ça fait écho à une autre phrase, et je vais arrêter avec ça, mais je la trouvais pas mal. Des domaines viticoles embauchent une panoplie de consultants pour savoir comment travailler les sols, comment faire le vin, les assemblages, etc. Et plus personne ne se sent assez responsable pour prendre le temps de ressentir les choses.
Ouais.
Voilà, il faut savoir tout faire.
je le pense encore, ouais. En fait, les consultants sont formidables. Hein. Il faut des consultants. On a besoin de consultants en viticulture. Là où je suis un peu plus
circonspect.
Ouais, c'est que il faut pas sortir de son périmètre, voilà. Et dans le périmètre du végétal, sur l'aspect végétal, il y a les gens savent pas beaucoup de choses. Voilà, on sait beaucoup de choses sur les vinifications, etc., sur les préparations de sol, mais sur le végétal, on a les consultants savent pas, donc des fois on est l'air sur certaines préconisations, voilà. Mais
et toi, tu accompagnes les vignerons pour les former aussi dans cette dimension-là.
Ah oui,
on comprend. Il y a un rôle de consultant qui est important.
On reçoit. Alors c'est un terme que j'ai jamais voulu utiliser parce que, mais l'expérience aussi, parce que bon, à 50 ans, on a quand même pas mal d'expérience, on a des équipes aussi. Nous, on est très présents sur le terrain. Donc l'évolution de notre activité, il est plus vers une baisse de la production pour être beaucoup plus précis. Sur chacun des chantiers, on veut que nos vignes poussent longtemps, donnent des grands vins et poussent longtemps.
Un peu comme un vigneron qui n'est pas concentré sur le niveau de rendement, les quantités d'hecto à l'hectare, mais plutôt la qualité du produit. C'est pas la quantité qui compte.
C'est la qualité, voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, notre métier est en train, chez nous, hein, il est en train de changer un petit peu. C'est des sujets de discussion qu'on a depuis pas mal de temps et on y vient petit à petit. L'acquisition de cette propriété à Villeneuve, m'a donné aussi encore plus d'énergie pour parce qu'on a une qualité de plan qui n'arrête pas d'évoluer. On se pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions et si on veut réussir notre challenge, il faut aussi accompagner. Donc la tendance, c'est justement de continuer à faire des plans de grande qualité. Et oui, nos plans seront chers, c'est évident. Mais on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Un plan, ça vaut pas 1,50€. C'est pas sérieux. Et on veut aussi accompagner pour faire en sorte que toutes les décisions qu'on doit prendre soient des décisions bien réfléchies et qu'elles puissent se permettre de donner des vignes centenaires pour l'avenir.
Merci infiniment Lilian Bérillon pour cette conversation assez passionnante autour de la pépinière viticole. Bon courage pour la suite et puis pourquoi pas on reviendra. Il paraît qu'on va aller faire un tour dans le sud dans quelques semaines si peut-être on aura ça pourrait être l'occasion de passer
voir. Il fait le même temps qu'à Paris, il fait très beau.
Très beau,
donc on vous attend
avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Merci Lilian, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, une belle rencontre. On a passé le temps, mais c'est vrai qu'on a passé du temps aussi à décrire au début de quoi il s'agit, cette histoire de greffe et de porte-greffe et de oméga et de à l'anglaise, mais ça valait le coup quand même pour comprendre un petit peu. Moi, j'avoue que j'ai appris énormément en travaillant sur ce sujet, que des choses que vous connaissiez par cœur, évidemment, messieurs, mais
facile, tranquille.
Et surtout, on s'est régalé avec ce vin du vigneron Jérôme Bressy, installé à Rasto. Alors, c'est pas un Rasto, parce qu'il est en IGP, donc il s'affranchit des contraintes de l'INAO pour faire un vin, ma foi, assez délicat, assez délicieux, domaine Gourde-Motins. et c'était un millésime 2012. Ceci explique aussi peut-être la profondeur et la délicatesse du breuvage. Merci messieurs, on se retrouve dans une paire de semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.
On est prêt.
À très bientôt.
Allez, salut. Bye bye bye. Ciao. And I'm so in love, there's nothing in life but you.